Bonjour, vous êtes sur D4B 90.4 à Mel, 101.4 à Niort. Vous écoutez L'Oiseau Lire avec
Marie,
Dani,
Marie-Hélène.
Une émission pour vous faire partager notre amour des livres, nos coups de cœur.
Pierre Rabhi, Semeur d'espoir, d'Olivier Le Nerf. C'est un entretien entre le journaliste Olivier Le Nerf et Pierre Rabhi. Ce dernier est agriculteur, écrivain, philosophe et un des pionniers de l'agriculture biologique. Il défend un mode de société plus respectueux de l'homme et de la terre. Ce livre est l'occasion pour lui de parler des eaux, de ses doutes et de ses espoirs. Écologie, mode d'emploi. Pour vous, qu'est-ce que l'écologie ? Pendant longtemps, je n'ai pas trop su ce que cela voulait dire. Puis l'agriculture m'a mis sur la voie quand j'ai vu que nous étions en train de détruire la vie avec la chimie de synthèse. Plus tard, j'ai découvert que l'écologie était une discipline à part entière et je regrette que nombre de responsables politiques divers l'abordent de manière partielle, la réduisent à quelques considérations élémentaires comme, par exemple, le tri des déchets et autres paramètres factuels. Pour moi, l'écologie, c'est comprendre les lois de la vie avec leur beauté, leur mystère. Cette perception devrait inspirer tous les secteurs de la connaissance et les activités ayant trait à la vie, en premier lieu l'agriculture. La Terre a existé des milliards d'années avant que cette vie n'y apparaisse. Et si l'on ramène l'existence de notre planète à une journée, l'homme ne l'occupe que depuis 3 minutes. La vie sur Terre représente un tel miracle que cela n'a aucun prix. Or, hélas, dans le système qui est le nôtre, ce qui n'a pas de prix est censé ne pas avoir de valeur. Au lieu de voir ce monde comme une oasis magnifique au cœur de l'immense désert sidéral, nous l'abordons comme un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. Et là, c'est l'éruption de l'inintelligence. En ce qui me concerne, dès l'instant où j'ai pris conscience de cette problématique, je suis allé puiser mes connaissances du côté des savants et des grands témoignages. Le discours du chef indien Seattle, par exemple, est pour moi d'une telle valeur que je l'ai affiché dans ma chambre. Quand le gouvernement américain lui a proposé d'acheter les territoires de sa tribu, Seattle a eu cette réponse magistrale. « Comment voulez-vous que nous vendions une terre qui ne nous appartient pas et à laquelle, au contraire, nous appartenons ?» Comprendre cela, c'est comprendre l'essentiel, le fondamental, et je me sens en profonde communion avec une si belle conscience. Même si ces propos d'origine ont été réécrits ou enjolivés au fil des décennies, l'essentiel est là. Ne jamais prélever au-delà de ce qui est nécessaire. Ne jamais polluer, ne jamais dégrader, respecter la vie. Voilà ce qu'est l'écologie. L'évidence énoncée par Seattle comporte une prémonition tout aussi magistrale. Celle de la fin de la vie et du début de la survivance. Être authentiquement écologiste expose donc, hélas, au chagrin et à la colère. Mais le pire serait le découragement, car les forces réparatrices sont omniprésentes et l'agroécologie en est une. Durant des millénaires, l'être humain a craint la nature et en même temps manifesté une gratitude à son égard. À ses yeux, elle était sacrée et il la respectait. La comparaison avec ce qui s'est passé ensuite est cruelle, comme en témoigne le livre majeur de Osborne, « La planète au pillage », qui fait en quelque sorte le bilan de l'impact de l'humanité sur cette Terre depuis l'origine. Osborne a livré dès 1949 une analyse absolument extraordinaire de la situation. Il démontre que toutes les civilisations élaborées ont été outrancières dans leur prélèvement des ressources, notamment du bois, qui explique les désertifications. Par son comportement avide, l'homme est peu à peu devenu le plus grand des prédateurs parmi les espèces vivantes. Quand je vois les pyramides en plein milieu du désert égyptien, eh bien, j'imagine que ce désert était à l'origine certainement couvert de forêts. Autant les hommes premiers respectaient le caractère sacré de leur environnement, autant ceux des civilisations qui leur ont succédé ont eu un comportement inintelligent et aveugle. Et pourtant, le mot décroissance fait peur. Quand vous avez donné au précepte décroissance une telle force qu'il devient un dogme, un credo absolu, le remettre en question devient un blasphème. Comment faire comprendre que la croissance indéfinie est totalement incompatible avec une réalité limitée telle que la sphère terrestre ? Comment faire comprendre que la croissance a généré plus d'inégalités que d'équité ? Comment faire comprendre que cette croissance indéfinie implique une stimulation permanente de l'avidité humaine ? Force est de constater qu'en dépit de la croissance, nous n'avons pas résolu le problème de la faim et que le superflu des uns s'impose aux dépens de l'indispensable des autres. Je ne crains pas de le dire, la décroissance, c'est la lucidité. C'est comprendre que notre système est incompatible avec les limites de la planète.
Michel Bouju a grandi entre deux drames familiaux, celui de son grand-père Maurice qui a été fauché à 26 ans en septembre 14 et celui de son père Pierre, prisonnier dans un stalag pendant 4 ans et demi. Et à la troisième génération, il décide de déserter alors qu'il doit partir pour l'Algérie. Et l'idée géniale qu'il a, c'est d'aller s'enfermer dans un cinéma. Sur le conseil d'un ami, et c'est le jour où le monde apprend la mort de Gary Cooper. Donc le livre que je vais vous lire un extrait, c'est donc Le jour où Gary Cooper est mort, de Michel Bouju. En attendant, me confie le petit, j'ai pensé à quelque chose. Plutôt que de te morfondre ici toute la sainte journée, il y a une chose que tu pourrais faire. Et qui est son grand risque, c'est de t'enfermer dans les salles de ciné. On y fait rarement de mauvaises rencontres. Conseil précieux, dont mon jeune homme n'aurait pu imaginer qu'il puisse avoir de si profondes répercussions. 2 semaines et demie durant, merveille du cinéma permanent qui ne peut être qu'une invention de poète, je passerai le plus clair de mon temps, de midi à minuit, dans les petites salles d'art et d'essai du quartier latin. Et m'y enfermerai en effet avec application et constance, tout à la découverte d'une petite géographie urbaine et intime où m'attire mon intuition et me conduit ma curiosité. C'est une expérience que j'ai plaisir à partager avec Douglas Kennedy. Lui, a lâché dans Paris un certain Harry Rix, prof de cinéma dans une petite université du Midwest. Et dans sa chambre de bonne, il touche le fond lorsque surgit la mystérieuse Margite, la femme du cinquième, titre du roman. La plupart de ses escapades le conduisent dans cette kyrielle de salles obscures du cinquième arrondissement qui font que Paris se définit par ses cinémas. Pour ma part, je me suis cachée dans les salles et ce sont les films eux-mêmes qui ont été mon refuge et leurs histoires mes sauf-conduits. Personne, me semblait-il, n'aurait pu me dénicher là, hors d'atteinte et à cloche-pied dans l'oubli de soi. Tour à tour dans la jungle des villes, sur la plage de Rimini ou sur une petite île suédoise, le temps d'un été, rue Campagne Première à Paris ou passage Pommeraye à Nantes, à Mexico comme à Shanghai, dans les herbages du Wyoming comme dans les ruines de Berlin. Tous ces lieux que le cinéma transfigure à jamais de l'autre côté du miroir. Entrer dans le décor, en somme. Se mettre dans la peau des autres. Les accompagner. Partager leur désir de vivre et leur soif de liberté. Bref, être dans les films comme un poisson dans l'eau. Au fil de ces 15 jours ailleurs qui m'ont fait cinéphile, les films m'ont accueilli, étreint, réconforté, délivré, oxygéné, soulevé, emporté haut et loin, forgeant durablement mon imaginaire. Ma vocation a pris là ses racines. Persistance rétinienne oblige. De ce ruban de pellicule, il me reste encore comme une ivresse de jeunesse. C'est au Bonaparte de la place Saint-Sulpice, séance de midi que je vois pour qui sonne le glas, comme un dernier adieu à Gary Cooper, celui qui n'avait pas le droit de mourir. La salle est aussi nue et austère qu'un temple calviniste. Version française uniquement, a prévenu la caissière. J'ai lu, il y a longtemps, le livre d'Hemingway. Je sais ce qui attend les amants de la Sierra de Guadarrama, la douce Maria frisée comme un mouton, et le grand Jordan, dynamitero venu d'Amérique à l'appel de ses frères des Asturies. Malgré son accent de Belleville, il est l'image transcendée du révolutionnaire au service d'une cause perdue. Il va avoir à choisir, comme il se doit, entre sa belle et la révolution jusqu'au sacrifice final. Ingrid Bergman, son amoureuse, a été traumatisée par ce qu'elle a vécu sous son indéfrisable. L'affadissement du roman est manifeste. Le livre est plus chaud et plus âpre d'un appétit de vivre, plongé dans la terre sèche et ingrate, pour laquelle les combattants de la liberté sont prêts à mourir, armes à la main, cœur rouge. Qu'ai-je retenu de la projection Bonaparte? Qu'a-t-elle fait remonter en moi? Le romantisme des maquis, l'amour fou, la révolte, tout ce qui me vient du surréalisme, l'école de mon adolescence avec ses mots d'ordre si fiers et foudroyants. Je sais aujourd'hui que le souvenir des films compte au moins autant que les films eux-mêmes, puisque notre relation avec eux est de l'ordre de l'intime. Ils nous regardent comme nous les regardons. Ils nous prennent par la main et nous consolent. Nous accompagnent comme nous les accompagnons. Ils grandissent ou s'éloignent. Mais ils nous appartiennent. Ils font partie de notre vie. Jordan et Maria, je les serre toujours contre mon cœur. En ce début de XXe siècle, le baron prussien Otto von Oettringen et sa femme Hildegarde partent en Angleterre pour des vacances en roulotte. Nouveau monde, nouvelles mœurs pour le baron que sa rigidité prussienne aura du mal à digérer. En caravane, Elisabeth von Arnim. La route étroite serpentait paresseusement entre des haies vives que Mrs. Menzisley devait trouver singulièrement attirante puisqu'elle s'arrêtait tous les 20 mètres pour en arracher quelques morceaux de feuillage. La pluie qui était tombée toute la nuit avait été fort humide, comme elle l'est souvent, et les gouttes qui s'accrochaient encore au sommet des brins d'herbe et à l'extrémité des feuilles étaient bien obligées de briller sous le grand soleil, comment s'en étonner ? Je n'y aurais prêté aucune attention si Mrs. Menzisley n'avait pas pris un air extatique en respirant à pleine narine l'air ambiant. On aurait dit qu'elle se trouvait dans une de nos splendides parfumeries d'Unter den Linden. Qui plus est, elle semblait trouver au ciel je ne sais quelle qualité exceptionnelle, alors qu'il était tout bonnement du bleu habituel des ciels d'été, avec juste ce qu'il faut de nuages blancs. Mes auditeurs ne seront-ils pas également d'accord avec moi pour soutenir que, la réserve étant la qualité première de la femme mariée, celle-ci ne doit sous aucun prétexte, fût-il de poésie ou de mystique, se laisser aller à des exclamations puériles. Qu'elle s'exclame devant un bébé, pourvu que ce soit le sien, passe, mais c'est l'exception qui confirme la règle. À jeune enfant, jeune mère, en général. Mais je trouve gênant de voir une femme pousser des cris d'enthousiasme devant son 10e nouveau-né, disons. Si l'enfant, certes, est de la première fraîcheur, on en saurait dire autant de sa mère. À son âge, elle devrait avoir appris à ne jamais broncher. Et en dehors des heures qu'elle consacre très légitimement à l'instruction des domestiques, à se taire. D'ailleurs, la meilleure des femmes est celle qui ne pipe mot. Que pourrait-elle dire d'intéressant, de toute façon ? On ne lui demande que d'écouter d'un air d'intelligence ce qu'il nous prend fantaisie de lui apprendre, des profondes pensées qui occupent notre esprit, et de se tenir prête à nous fournir à tout instant ce dont nous pouvons avoir envie. Je ne crois pas que ce soit trop demandé, tout de même. Si j'osais, je dirais qu'on devrait toujours avoir des allumettes, un cendrier et sa femme sous la main. En tout cas, je maintiens que l'épouse parfaite a cela de commun avec les allumettes et les cendriers qu'elle peut rester muette sans cesser d'être utile. Hildegarde, dont je n'avais pas remarqué l'absence, écarta la portière de la roulotte et apparut sur la plateforme. Lord Sigismund et Jellaby se précipitèrent pour l'aider à descendre l'échelle. Menzisley lui offrit le secours de son bras. Je fus le seul à ne pas bouger, rien n'était plus juste. D'abord parce que j'étais son mari, ensuite parce qu'il ne convient pas de donner aux femmes une trop haute idée de leur importance. Elles ont perdu l'habitude de ces attentions depuis leurs 18 ans, lorsqu'elles étaient encore à Petite Licht, et cela risquerait de leur tourner la tête. De toute manière, la stupéfaction que j'éprouvais à découvrir son extravagant accoutrement aurait suffi à me clouer à mon banc. Je ne comprenais que trop bien pourquoi elle avait disparu si longtemps dans la roulotte, alors que son devoir d'épouse aurait été de se tenir à mes côtés sur la route poudreuse où je retenais à grand-peine un cheval ombrageux. Pendant que je parcourais 5 miles à pied sous un soleil de plomb, figurez-vous qu'elle s'occupait tout bonnement à raccourcir sa jupe et transformer sa coiffure pour se changer en une copie conforme de Mrs. Menzingley et de sa sœur. Croyez-moi, ce n'était plus l'honnête chrétienne que tout mari souhaite avoir pour épouse. Il n'y avait en elle presque plus rien de prussien. Vraiment, j'aurais eu du mal à la reconnaître si je l'avais rencontrée au détour d'un chemin. Et dire qu'elle avait opéré cette métamorphose sans m'en demander la permission, sans même me demander mon opinion.
Son joli chapeau de feutre tout neuf, avec sa coquette plume de faisan, disparaissait presque entièrement sous une gaze disposée à l'imitation des deux sœurs. Où l'avait-elle déniché? À quel vêtement, à présent irrémédiablement gâté, l'avait-elle arraché? À quoi sert une plume de faisan quand on ne peut pas la montrer? Ses cheveux, en temps ordinaire toujours bien tirés, tombaient en cascade sur ses épaules et sa jupe ne dissimulait plus rien de ses bottines. Bref, elle semblait la réplique un peu agrandie, un peu épaissie des sœurs Van Ecktoom. Comment pouvait-elle ainsi bafouer mon autorité? Cela m'irritait au plus haut point, et dans mon indignation, j'étais persuadée de l'avoir vue me défier du regard. D'ailleurs, une épouse n'est pas une femme comme les autres. S'il est parfaitement juste et bien agréable que les femmes des autres soient séduisantes, les seules qualités qu'on doive admirer dans une épouse sont la douceur et la discrétion, unies à un souci constant du confort, donc du bonheur, du mari que le ciel a eu la bonté de lui accorder. Faute de cela, une femme ne mérite pas l'estime de son mari, et il me semblait impossible de garder mon estime pour Edelgard si elle continuait à porter cette jupe. J'ignore ce qu'elle avait fait à ses pieds, mais ils me parurent beaucoup plus petits qu'à l'ordinaire lorsque les trois messieurs l'aidèrent à descendre l'échelle. Les bras m'en tombaient, et comme je tenais un verre à la main, ma bière dégoulina dans la poussière.
Vous venez d'entendre des extraits de Pierre Rabhi, Semeur d'espoir d'Olivier Lenaire, lu par Marie, Le jour où Gary Cooper est mort de Michel Bouju, lu par Dany, et En caravane d'Elisabeth von Armin, lu par Marie-Hélène. À bientôt !